exposé sur le sujet du libre accès et de la bibliométrie. C'est un exposé qui normalement est fait pour durer un peu plus d'une demi-heure, mais là j'ai qu'une demi-heure, donc je vais aller un peu vite. Si vous allez sur ma page web qui est sur tableau.rosy.net, vous pouvez trouver un texte qui l'explique plus long. C'est un peu la même chose que l'article Mediapart, mais en plus, enfin, c'est pas tout à fait la même présentation. Voilà. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est le système de publication académique, qui, je pense, est problématique, non seulement par sa nature, parce qu'il pose des problèmes scientifiquement, humainement, et on va le voir aussi beaucoup financièrement, et par son utilisation, la bibliométrie qui est problématique. Et je vais essayer d'expliquer comment ces deux sujets sont reliés par certaines de leurs causes, mais surtout par la solution, qui pour moi est le passage au bon libre accès. On va voir qu'il y a plusieurs modèles, il y en a qui sont préférables à d'autres. Donc rapidement, pour, je pense qu'ici, où on est, le public doit savoir à peu près comment ça marche la recherche. Mais donc c'était juste pour introduire des mots que vous voyez en italique là-bas. Rapidement, parce que je vais peut-être passer vite là-dessus. Donc la recherche, c'est un truc, j'ai essayé de détailler des étapes qui sont communes à tous les domaines à peu près. Évidemment, la façon dont on travaille, ça dépend beaucoup de si on est en sciences expérimentales, en sciences complètement théoriques, des choses comme ça, mais en gros les étapes c'est qu'on va avoir besoin de faire un état de l'art, donc là ça suppose un accès évidemment à le plus de publications possible, à tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on ne fait pas de la recherche en revenant tout de zéro à chaque fois, il y a beaucoup de boulot depuis 6000 ans derrière. Donc ça suppose un accès, la première étape déjà, à toutes les publications, à tout ce qui est toutes les technologies, les connaissances de l'humanité, pour savoir en gros qu'est-ce qui serait dans notre domaine la bonne prochaine étape, le bon petit pas à faire en plus pour contribuer. Ensuite, on essaye de répondre à la question qu'on aurait formulée. Et en fait, ensuite, souvent, on obtient des résultats qui sont soit les résultats qu'on attendait, soit pas, soit complètement autre chose. Mais en tout cas, en général, il y a d'autres questions qui se posent et puis ça continue. Une fois qu'on a des résultats, si, quels qu'ils soient, s'ils sont significatifs, c'est-à-dire s'ils font un peu avancer l'état d'art de notre domaine, on veut les communiquer, on veut communiquer ça à la communauté, donc on rédige un article. Cet article, une fois qu'il est rédigé, donc c'est des chercheurs qui l'ont écrit, on le soumet à une revue, une conférence, il y a plein de formules différentes. Ça peut être un workshop, un symposium, enfin, il y a plein de moments, en gros c'est un peu tout le temps la même chose. Et donc là, en fait, quand on a fini d'écrire l'article et qu'on le soumet, il est en préprint. Donc ça, je vais en reparler un peu tout à l'heure, c'est pour ça que j'en peux du vocabulaire. C'est ce qu'on appelle la version pré-print, c'est-à-dire la version qui sort des auteurs. Ensuite, cet article, pour pas que n'importe qui puisse mettre n'importe quoi, n'importe où, il est évalué par les pairs. Donc ça, c'est un travail qui est aussi partie de la mission d'un chercheur, et qui est de juger en fait de la qualité, de la pertinence, de la nouveauté d'un article. S'il est bien, par exemple, en accord avec le sujet du journal dans lequel on a voulu le soumettre, si c'est quelque chose qui n'a pas déjà été publié ailleurs, et donc ça sert à quelque chose de prendre de la place dans le journal pour le faire diffuser. Ouais. Et donc en fait, les pairs, les peer reviewers, ils vont faire des commentaires donc, sur cet article, et il va y avoir un cycle de discussion comme ça, pour que les auteurs améliorent l'article jusqu'à ce qu'il soit publié. Une fois que toutes ces suggestions ont été prises en compte, on nous dit que l'article est en post-print. Ensuite, la maison d'édition, le publisher, va faire des dernières retouches donc qui sont plus ou moins importantes selon les domaines et les technologies qui sont utilisées, et la version finale qui sera publiée est la version publiée, tout simplement. Alors j'aurais peut-être dû mettre publié entre guillemets, parce que publié ça veut dire rendu public, et on va voir que c'est pas aussi simple en fait. Le système de publication, je vais faire un très rapide aperçu historique, là-dessus aussi je vais aller un peu vite parce que pas trop le temps. Donc là, le premier journal, c'est en 1665, c'est le journal des savants, c'est à Paris, ça a eu lieu. Le but, c'était de diffuser plus largement les résultats de la science des lettres et plus rapidement. Parce qu'avant ça, la diffusion était principalement assurée par lettres, en fait, entre ce qu'on appellerait aujourd'hui les chercheurs. À l'époque, c'était le terme, mais c'était pas forcément. Donc ensuite, on a une succession d'étapes que j'ai listées comme ça, donc l'apparition de plus de multiples revues. Donc, juste 3 mois après le journal des savants, à Londres, ils font pareil avec les Philosophical Transactions of the Royal Society. Donc, c'est aussi le journal des savants, c'était l'Académie française, je crois, et là-bas, c'est la Royal Society. Ensuite, on a les revues qui deviennent le support privé. médaille avec les 30 Glorieuses. Donc il y a une reprise très forte de l'activité scientifique. Et pendant la guerre, il y a un effort d'industrialisation de la science, en fait, qui fait qu'on a une internalisation massive des maisons d'édition, beaucoup de nouvelles revues et des nouvelles pratiques tarifaires. Là, on a les publishers qui commencent à prendre les universités comme leur cœur de cible, en fait. Et à partir des années 60, à peu près, de ce que j'ai trouvé, on a les premières discordes entre les bibliothèques et les scientifiques, d'un côté, et les maisons d'édition, les publishers, de l'autre. Parce que, ils commencent à avoir des problèmes de tarifs, en fait. Voilà. Donc maintenant, on a Internet. Ça change un peu les choses, parce que la diffusion des articles, elle peut se faire plus simplement, plus rapidement, plus vastement. C'est sûrement plus écologique d'utiliser plein d'électricité pour faire tourner des serveurs que d'envoyer des avions et d'imprimer du papier. Je le mets a priori, parce que je ne suis pas sûr, mais il faudrait faire un truc, maintenant c'est très possible. Et c'est moins coûteux. Et puis surtout, il y a une possibilité d'autodiffusion sur Internet. On n'a pas besoin d'être une grosse entreprise pour avoir son site web. N'importe qui peut mettre en ligne ce qu'il veut, à coût très faible. Et du coup, on a une possibilité d'autodiffusion non seulement par les chercheurs eux-mêmes, mais aussi et surtout par les revues et les conférences qui peuvent s'auto-héberger. Donc, plus besoin d'avoir quelqu'un dans ses métiers de diffuser leurs actes ou le volume de leurs revues. Donc, finalement, le rôle des maisons d'édition, c'est quoi? La mise en page des articles, donc ça c'est tout le travail d'édition non scientifique. Distribuer le plus largement possible les articles, donc ces deux premiers points, on a de moins en moins besoin d'eux, alors pourquoi? Pour la mise en page des articles, aujourd'hui on a des templates, des documents classes, selon qu'on utilise LaTeX, Word, LibreOffice, qui font qu'en fait on fournit de plus en plus ce qu'on appelle des caméras ready. C'est-à-dire que le post-print en fait correspond à la version publiée plus ou moins. Donc, pour donner une anecdote, le dernier article que j'ai soumis par exemple, qui a été accepté, la différence entre le post-print et la version publiée, c'est que les numéros des pages sont en bleu. Voilà, pas forcément la taille. Donc un rôle qui n'est pas intrinsèque mais qui est hérité, c'est faire reconnaître les chercheurs aussi, parce que une revue, quand elle a des bons articles, elle va devenir prestigieuse et du coup publier dedans. C'est bien pour la carrière du chercheur. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un effet mécanique qui va ressortir de ça, c'est que les chercheurs, leur carrière va un peu dépendre de ça, en fait. Ça va dépendre de où ils publient. Et il y a certains domaines, par exemple, où si on n'a pas son papier dans Nature ou Science, on n'a juste pas de poste. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que vu que les postes et les bourses de recherche, les projets de sont attribués en fonction de critères bibliométriques, on a un autre rôle qui émerge des revues, qui est de définir les tendances thématiques des sujets de recherche. Et du coup, là, on peut se poser une question qui est quand même assez importante, finalement. C'est la légitimité du rôle des publishers, qui sont des entreprises privées, dont le but est de faire du profit, dans le processus de décision de dépense de l'argent public dans la recherche. Donc, le but est de faire progresser l'humanité, finalement, et pas de faire des choses. Donc ça, c'est un problème lié donc, à la bibliométrie, dont je reparlerai sûrement plus tard. Évidemment, le rôle des publishers, c'est avant tout gagner de l'argent. Hein, ils ont des actionnaires derrière. C'est un peu moins vrai pour les sociétés savantes. C'est pas vrai pour les sociétés savantes, en fait. Il y a certaines sociétés savantes qui miment, je ne sais pas pourquoi, ce comportement de prédateurs de connaissances qui ne veulent pas les redistribuer derrière. C'est pas le cas de toutes, mais certaines sont assez flippantes. Voilà. Il y a un très bon article qui est publié dans Le Tigre, je ne sais pas si vous connaissez ce magazine, qui s'appelle De la mondialisation appliquée à l'édition, et c'est quelqu'un qui travaillait chez Masson, et qui raconte suite au rachat de Masson par Elsevier, comment ça s'est passé de l'intérieur. C'est édifiant comme témoignage, je vous engage à aller lire. Donc, voilà, le partage des coûts jusqu'à la publication. Ça, c'est quelque chose qui est assez étrange aussi de comment ça se passe. Donc, on a de l'argent public qui finance les chercheurs, les expériences, les locaux, c'est de l'argent public qui finance tout ça. les reviewers, ceux qui évaluent les articles, ce dont je parlais tout à l'heure, l'évaluation par les pairs, forcément c'est des chercheurs, vu que quand un chercheur fait un nouveau papier qui est supposé faire avancer l'état de l'art de son domaine, il n'y a que des chercheurs de son domaine qui vont être capables de le relire et d'évaluer la pertinence de la chose. Donc c'est aussi des chercheurs, donc un nouveau pays sur l'argent public, qui évalue la recherche. Et parfois même, on paye pour la publication. Il y a des domaines comme la médecine où c'est la règle de payer à la page qu'on publie. Et en échange de ça, les publishers, très sympathiquement, ils exigent une cessation de copyright, c'est-à-dire qu'on leur donne notre travail. Il y a un auteur qui signe un papier, et ça engage tous les auteurs à donner complètement le contenu du papier au publisher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si on a une figure, c'est bête, hein, ça peut être un petit dessin qui fait 3 cm par 5 cm, sauf que le dessin il peut représenter les résultats d'une expérience qui a coûté des millions. Et ça on le donne au publisher. Si on veut le mettre dans un bouquin pour des étudiants, si on veut le mettre dans un autre article, si on veut le mettre sur sa page web, il faut lui demander l'autorisation. Alors il y en a certains qui sont sympathiques et qui l'autorisent au bout d'un an, par exemple, à mettre l'article sur sa page web ou sur un dépôt. C'est juste parce qu'ils sont sympathiques, on ne peut pas compter là-dessus. Et si jamais trop de gens le font, ils vont peut-être dire on arrête. Parce que ils écoutent leurs actionnaires, ils n'écoutent pas les scientifiques, c'est pas eux qui décident. Voilà. Donc le problème c'est que du coup on se retrouve avec des résultats de la recherche qui sont privatisés. Et du coup les publishers ils les revendent. Voilà. Et en fait, les coûts sont exorbitants. Donc, les articles peuvent être sont revendus individuellement, et c'est pas ça la principale forme en fait de vente en termes de chiffres, de très loin. Ils vendent ça sous forme d'abonnement à des bouquets de revues énormes. Donc, si jamais vous vous intéressez à deux revues, il faut quand même prendre en général ils font des négociations qui sont lentes, compliquées, et qui forcent les universités à acheter des bouquets énormes de revues. Dont certaines n'auraient pas forcément envie. Donc par exemple, à l'ENS, vu qu'on est là, le service commun de documentation, c'est le réseau des bibliothèques de l'ENS. En 2011, donc dans le rapport financier, le rapport d'activité, il y a une section finance, on voit que le montant total des dépenses, donc ça inclut travaux, salaires, tout, c'est un peu plus de 2 millions. Et il y a plus de la moitié de ces dépenses qui sont des dépenses documentaires. Donc ça veut dire que l'ENS, qui n'est pas une grosse fac, dépense plus d'un million par an en abonnement et divers ressources pour des recherches qu'elle a en partie produites et qui de toute façon étaient financées sur un rendement public, je le rappelle. Et alors un truc amusant, c'est qu'ils précisent juste en dessous de ces chiffres que c'est super cool qu'on paye que 1 million. Et en fait, c'est dû au fait que l'ENS, comme toutes les universités en France, a 12 000 tutelles. Et que du coup, y a plein de journaux, de bouquets de revues et d'actes de conférences qui sont disponibles via le CNRS, via l'INRIA, via l'UPMC à côté, via l'ECA. Et du coup, c'est un facteur d'économie important. C'est littéralement dit comme ça dans le rapport. Voilà. Hein? Et de l'autre côté, ça donne quoi? Et typiquement, Reed Elsevier, qui est le plus gros publisher. En 2013, ça augmente tous les ans, donc là j'ai mis pour 2013 c'était plus 3% par exemple, c'était 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc plus de 2 milliards ils appellent ça bénéfices opérationnels, c'est-à-dire que c'est à la fin, quoi, une fois qu'ils ont tout payé, vraiment juste qu'ils gagnent, quoi, plus de 2 milliards. Évidemment, s'il y a autant de gains, c'est parce qu'ils réinvestissent pas beaucoup dans la science. Hein. En vrai, la plupart de leurs investissements, c'est des juristes qui font des négociations avec les universités de manière la plus compliquée possible et du lobby. Par exemple, ils essaient au niveau de l'Union Européenne de faire confondre différents modèles d'open access, plutôt de faire croire que l'open access c'est un des modèles qui existent. Bon, je vais détailler après que le modèle d'open access, en fait, c'est l'auteur qui paye. Alors, c'est sympa aussi. Et évidemment, avec tous ces mouvements d'open access et puis tout ça, ils discutent un peu et du coup ils augmentent leurs tarifs. Et puis comme ils ont un monopole en fait, quand on leur cède un copyright, on peut pas négocier. On peut négocier, sauf qu'on n'a pas le choix, on peut pas dire si vous avez des prix qui sont pas cool, on va prendre chez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas chez quelqu'un d'autre, les articles qui sont chez un publisher en fait. Du coup, par exemple, vu qu'il y a cette notion de propriété intellectuelle et de monopole dessus, du coup, de ces 5 dernières années, il y a 55% de en moins d'abonnements, 33% en papier, 33% d'électronique en plus, donc ça veut dire qu'on a baissé le nombre d'abonnements, hein, globalement. Et dans le même temps, bah, les abonnements, en 5 ans, ils ont augmenté de 21% pour Elsevier, 32% pour Springer et 61% pour l'IE. Et puis comme par tech, c'est pas mal de choses en ingénierie et l'IE, c'est spécialisé. Donc comme je le disais, les négociations ne sont pas sous les règles des marchés publics. Et du coup, ben, les montants des contrats sont confidentiels. Parfois, la clause de confidentialité est elle-même secrète. C'est un article de Timothy Bowers sur son blog qui raconte un peu ça, qui a essayé de voir un peu genre en Angleterre, aux États-Unis, les journaux Elsevier sont bien, les universités payées. Plusieurs universités lui ont répondu, comme si ça venait de la bibliothèque, une lettre type qui essayait de prendre des contours comme ça pour ne pas répondre. Il s'est rendu compte que c'était tellement la même tout le temps que c'était rédigé par Elsevier en fait, qui répondait à la place des bibliothécaires. Donc voilà. Alors, ensuite, moi je vous parle de tout ça parce que les sous ça parle aux gens et qu'ils se rendent compte un peu de la massivité du problème, de l'énormité du problème. Mais pour moi c'est un symptôme, c'est pas le vrai problème. Ça, le vrai problème c'est l'accès citoyen de la terre entière, de tous les gens, au résultat de la connaissance de tout ce qui a été créé par les chercheurs. Évidemment c'est l'égalité entre étudiantes et étudiants, chercheuses. Parce que suivant qu'on est dans une université qui va avoir les sous de s'abonner au journaux ou pas, on va pas avoir l'accès au même contenu. Évidemment, on se convertit dans le monde entier, parce que nous on a des problèmes déjà ici, genre à Normale Sup, quand on est étudiant, je sais plus si au département info ils ont accès, mais nous en tant qu'étudiant on n'a pas accès par exemple à toutes les publications ACM, et c'est le plus gros éditeur quasiment, enfin en tout cas un des plus importants en informatique. Donc ça veut dire que les papiers on est obligé de les voler entre guillemets à chaque fois. D'aller les récupérer à droite à gauche, ça prend 200 ans. Mais nous on est bien logés en fait, hein. On est très très bien logés. Il y a des universités en Afrique, en Amérique du Sud, tout ça, qui sont juste pas les sous de s'abonner. Tout ce à quoi ils ont accès, c'est ceux qui sont mis en ligne par les gens. C'est pas une proportion énorme. Donc le libre accès, qui est une solution. Donc c'est la mise à disposition des publications, des données de la recherche en accès libre gratuit limité sur Internet, sans restriction de paiement ou d'abonnement auprès de maisons d'édition ou sociétés. Donc on va essayer de voir quel problème ça résout, à quel prix. Ça c'est une question qui revient souvent, je ne sais pas pourquoi, quid de la reconnaissance des auteurs. On va voir que ça pose un problème à ce niveau-là. Et on va essayer de se demander comment on finance la publication, ou plutôt qu'est-ce qui reste à financer en fait, quand on passe à ce modèle-là. Un de ces modèles. Donc comment c'est rendu possible? Donc on a vu, Internet permet de faire ça. Et il faut évidemment le consentement des détenteurs du copyright des articles, donc ceux qui sont propriétaires des articles. C'est les auteurs à la base en fait. Quand on écrit quelque chose, par défaut, c'est nous qui possédons le copyright. Donc il faut arrêter de les donner aux maisons d'édition. Déjà, ça c'est une première chose. Pour les anciens papiers, qui sont déjà chez eux, soit il faut trouver un moyen de changer la loi pour les récupérer, évidemment, soit il faut aller les récupérer autrement. Ça, on trouve différentes solutions comme ça, plus ou moins violentes. Donc pourquoi les auteurs choisiraient-ils le libre accès? Ça c'est assez simple, hein. Un chercheur il n'écrit pas pour gagner de l'argent, vu que de toute façon son article peut être lu, téléchargé, acheté 12 000 fois, ça ne change rien du tout. À son salaire. Un chercheur, il est écrit pour diffuser la connaissance, parce que c'est le métier qu'il a choisi de faire, voilà. Et pour se faire connaître, vu que sa carrière dépend de ça. Donc ce qu'il veut, c'est que ses articles soient le plus lus possible. Un article qui n'est pas derrière un mur à page, un paywall, il est plus lu, parce que si quelqu'un tombe dessus, il va cliquer, il ne va pas se dire « Ah mince, je dépense 30 euros pour avoir un PDF de 10 pages. » Donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est pas le libre accès, vu que j'avais dit, voilà, il y a des gens qui se posent des questions sur le sujet. C'est pas un moyen de se passer des peer reviews, de l'évaluation par les pairs. C'est deux problèmes totalement orthogonaux, on peut tout à fait continuer à faire du peer reviewing sans aucun souci avec le libre accès. Je vais juste faire une petite parenthèse, je sais pas si vous lisez Science, il y a peut-être des gens qui lisent Science. Et il y a quelqu'un qui s'appelle uniquement les journaux libre accès. Il suppose, son article fait absolument comme hypothèse de départ, les journaux qui sont en libre accès sont géniaux. Ensuite, il choisit que des journaux qui sont en open access, qui sont d'une manière qu'on appelle gold open access, ce dont je vous parlais tout à l'heure aussi, que je vais détailler après, qui font payer les auteurs. Et ensuite, il envoie un article bidon à plein de ces journaux-là et il regarde les taux d'acceptation. En fait, ce qu'il faut conclure de cet article, c'est que l'envie des chercheurs d'être en open access pour être plus combiné à la bibliométrie qui les incite à publier, hein, ce qu'on appelle le publish or perish, ça a juste créé un business hyper malsain de la publication et ça a donné lieu à des gens qui font des reviews juste pour gagner, qui font des revues pour gagner de l'argent et qui ne font pas de peer review du tout, juste vous dites ah ben, je paye et je publie. Ouais. Un chercheur, il ne va pas envoyer son, je vous l'ai dit tout à l'heure, il veut des reviews qui sont des revues qui sont prestigieuses et tout ça, il ne va pas envoyer ses papiers n'importe où comme ça. L'expérience qu'il fait n'a strictement aucun sens et si vous cherchez le titre de son article sur internet, il y a à peu près 10 ou 100 fois plus de gens qui expliquent pourquoi c'est n'importe quoi que son article. Ouais. Donc c'est pas une réforme du copyright ou du droit d'auteur. Non, parce qu'en fait ça, je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu, puis on en reparlera pendant ces deux jours de licence libre, notamment Creative Commons, ça se fonde sur le copyright. Et donc on a besoin de ce truc-là, en tout cas pour l'instant. Et le droit d'auteur ne s'applique pas vraiment, vu qu'on n'est pas en train de parler d'œuvres où il y a des redevances de droit d'auteur. C'est pas un délit des coûts de publication, on dit juste qu'actuellement c'est beaucoup trop cher. Et on peut baisser ces coûts, on ne dit pas qu'ils ne sont pas là. C'est pas une façon de diminuer le contrôle des auteurs sur leur travail, au contraire, on leur demande de garder le copyright de leurs articles et de ne pas le fournir gratuitement à des publishers. C'est pas une façon de banaliser le plagiat, en aucun cas. De toute façon, le plagiat ne change strictement rien au niveau de la loi à ce niveau-là, au niveau des mœurs non plus, et le plagiat est beaucoup plus puni par les mœurs que par la loi de toute façon. C'est pas un appel au boycott des éditeurs traditionnels, il y a certains modèles d'open access, pas ceux que je pense qui sont bizarres, mais il y a certains modèles qui sont compatibles avec leur existence, et puis ils peuvent s'adapter aussi. C'est pas uniquement même pour la recherche citoyenne, donc comme je l'ai dit, il y en a besoin dans les universités aussi. Et c'est pas évidemment pas la solution à tous les problèmes. C'est pour ça qu'on parle de libre accès, pas d'accès universel. Il y a toujours un besoin d'un accès à Internet, c'est pas évident partout. Il y a toujours le filtrage et la censure qui sont possibles sur ce réseau. Il y a une barrière de la langue, la plupart des papiers sont en anglais, donc c'est pas évident pour tout le monde. Et il y a un problème d'accessibilité, les sites web ne sont pas forcément bien fichus. Et puis le format PDF qui est utilisé actuellement, c'est pas terrible. Hein. Faut bien dire, effectivement, vous voulez vous balader avec un PDF là-dessus, ça marche pas bien du tout. Pourquoi la transition vers le libre accès c'est si difficile? C'est en grande partie dû, alors d'une part au lobby des maisons d'édition de publishers, mais c'est aussi et surtout dû à la bibliométrie en fait, parce que ça veut dire que les chercheurs en fait, à cause de la bibliométrie et du fait que leur carrière dépend de critères bizarres comme ça, ils veulent publier dans les bonnes revues, parce que le principe de la bibliométrie c'est quoi? C'est de dire on veut pouvoir comparer tout le monde facilement, et du coup on va mettre des choses qui sont même pas de la même nature, qui sont dans qui était là, ce qui est censé être là de manière extérieure pour vous juger, devient un objectif. Du coup, quels que soient les critères que vous avez, vous allez forcément vouloir les satisfaire eux et plus faire de la bonne recherche. Donc, c'est juste pas possible d'avoir des bons critères, il faut juste s'en débarrasser. Il faut pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas évaluer les chercheurs, c'est juste que pour évaluer un chercheur, on peut par exemple lire ses articles et si elles étaient disponibles publiques et citables, les reviews de ces articles par exemple. Pas obligé d'en lire 120, des bonnes idées, si les gens ils en ont deux dans leur vie, c'est déjà un miracle, donc on peut leur demander c'est quoi vos deux papiers, les deux bons papiers par exemple sur les dernières années, vos deux bons papiers. Les différents modèles d'open access, donc il y a quatre voies essentiellement qui sont répertoriées. Il y a la voie verte qui correspond à l'auto-archivage, donc ça c'est en gros les chercheurs qui vont aller mettre eux-mêmes dans des dépôts comme je ne sais pas si vous connaissez Archive ou HAL. En France on a hyper article en ligne qui est un truc qui est pas mal et qui en plus c'est un portail vert Archive. Donc ça c'est de l'auto-archivage, ça veut dire que c'est les chercheurs qui vont aller mettre leurs articles sur ces dépôts. Et c'est le publisher qui détient le copyright qui va leur dire oui, je suis gentil, tu as le droit. En général, il y en a beaucoup, ce qu'ils font, c'est dire au bout de 6 mois d'embargo ou un an d'embargo, tu m'as laissé le vendre comme tu voulais, tu as le droit de le mettre là-dessus. Évidemment, ça tout le monde le fait. Alors, normalement, il y a des chartes qui ont été signées, des appels qui ont été signés. Par exemple, tous les chercheurs du CNRS sont censés mettre leurs articles sur PAC. Pas super beaucoup fait en pratique, mais les sorties sont censées. Ensuite, il y a la voie dorée. Donc, ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le gold open access, c'est ce que les publishers lobbyent beaucoup pour faire passer pour l'open access tout court. Là, en fait, l'idée, c'est que l'article sera en libre accès, mais c'est l'auteur qui paye. Donc, par exemple, chez Springer, quand vous soumettez un article qu'il a accepté, vous êtes content, et vous dites est-ce que vous aimez l'open access? Évidemment, vous êtes un chercheur, vous dites oui. Et vous dites très bien, on peut mettre votre article en open access, vous êtes content, et là, il vous demande de payer 3000 euros. En fait. C'est un peu beaucoup. Et en plus, c'est une hypocrisie totale parce que, vu que c'est au choix de l'auteur, du coup, dans la même revue, vous allez avoir des articles qui sont en bon accès, des articles qui ne le sont pas. Du coup, les universités continuent de devoir s'abonner à la revue est toujours dans un bouquet qu'il faut payer. Quoi. Donc, ça a peut-être une influence sur les prix, je pense pas. Mais, ouais. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la voie platine. Donc ça, c'est un modèle où en fait, la revue est totalement en libre accès. Et on peut... les auteurs ne payent pas, les lecteurs peuvent aller sur le site web de la revue lire le truc. Par contre, après, c'est un modèle qu'on appelle freemium. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous voulez une version papier, vous payez pour qu'on vous l'envoie. Si vous voulez une version PDF ou une version là-dessus, par exemple, vous payez. Et donc ça se finance comme ça. Il y a une plateforme qui s'appelle revue.org, qui existe depuis 1999 et qui fait ça. Ça marche assez bien. Et ensuite, il y a la voie de diamant, où là, on change pas mal de paradigmes en fait, et qui est pour moi la bonne solution. C'est de dire que là, c'est un peu comme le modèle freemium, sauf que c'est entièrement gratuit et libre. Et la grosse différence en fait, c'est que on insiste beaucoup pour que les auteurs conservent leur copyright et pour que la revue soit détenue par le comité éditorial. Le comité éditorial, c'est l'ensemble des chercheurs, le collège de chercheurs, qui est censé être renouvelé régulièrement, tout ça. Qui fait le travail d'édition scientifique de la revue, qui se charge de redistribuer les articles qui sont soumis à la revue pour les faire relire par les experts, les chercheurs du domaine. C'est les gens qui font le travail. Voilà. Donc si eux détenaient la revue et le titre, ben, on pourrait dire par exemple si on veut une édition papier comme ce que font les publishers et qui l'envoient dans le monde entier, ben, on pourrait faire appel à un prestataire, puisque les publishers pourraient transformer leur métier en ça par exemple. Qui pourrait être celui avec qui ça coûtera le moins cher, où on pourrait dire, vu qu'on est passé à ce modèle-là, que tout l'argent qu'on économise, les centaines d'établissements, les 36 millions par an du CNRS, et tout ça, ben, cet argent qu'on économise, on le réinvestit dans les prêches universitaires, dans les bibliothèques, pour avoir des gens dont c'est le métier de faire l'édition, donc pas scientifique, l'édition genre mise en page, correction de typo, enfin tous ces trucs qui sont quand même fort utiles. Plus tout le travail que ça suppose aussi de conservation, de gestion, d'archivage, donc en gérant les métadonnées, pour savoir quel article cite lequel et tout ça, parce que c'est intéressant pour les chercheurs. On pourrait investir là-dedans en fait, pour pouvoir faire en interne tout ce travail, plutôt que de payer 15 fois pour la même chose en fait. Donc comment faire pour passer libre accès, donc des efforts personnels des chercheurs, tout ça je vous ai dit, des politiques d'institutions nationales, des politiques européennes, donc ça, ça se met en place doucement. Et puis bon, le but final, c'est d'arriver à une prise d'indépendance totale par rapport aux éditeurs, aux publishers, je veux dire, traditionnels. Donc ça, c'est le modèle diamant. Donc il y a déjà pas mal d'initiatives, il y a des gens qui vont en parler après, donc je vais essayer de ne pas dire de bêtises et tout ça. Il y a des appels, donc l'initiative de Budapest pour l'accès ouvert qui a été signée par beaucoup de gens. Il y a la déclaration de Berlin, il y en a deux qui ont été cette fois-ci signées par des institutions comme le CNRS, l'Institut Pasteur et l'INSERM, qui elles appellent les institutions à demander à leurs chercheurs de mettre leurs articles en open access. Il y a plein d'universités qui commencent à dire on va gérer nous les articles. Donc ça, comment ça se passe? C'est que les chercheurs de l'université décident collégialement, on en a marre du système comme il est maintenant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que notre université, notre tutelle, elle va récupérer le copyright des articles, elle va les défendre pour nous, et du coup on va donner des licences de publication aux publishers, et l'université, nous, on garde le copyright, et on distribue en open access de toute façon, si jamais la revue n'est pas, ou de toute façon. Donc ça, je pense qu'il y a des gens dans les deux jours qui vont vous en parler. Quoi. Donc voilà. Donc moi, ce que je dis, c'est que, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Donc il faut vraiment préférer la voie d'amant. C'est vraiment la bonne solution de décentraliser les revues, les conférences. C'est-à-dire chacun se publie sur sa page web et on a des gens dans ces métiers de conserver tout ça. Mais pas un gros repos central avec tout dedans, parce que ça facilite trop la bibliométrie, c'est pour ça que j'aime pas ça. Il faut faire des évaluations ouvertes. Donc là, le principe, j'en ai pas trop parlé, d'évaluation ouverte. Le principe, c'est que, en fait, les chercheurs, quand ils écrivent leurs articles, ils le mettent en ligne. Et ensuite, en fait, il y a une période où ils demandent à leurs collègues et tout ça, les autres gens du domaine, ou les revues ou les conférences vont le demander, l'organiser, de faire des évaluations. Ça, c'est déjà fait actuellement, sauf qu'actuellement, c'est complètement anonyme, plus ou moins anonyme, et surtout, c'est secret, entre guillemets, c'est pas public en tout cas. Ça se fait par email et par. Voilà. Moi, je pense que les évaluations devraient être publiques, ouvertes, comme ça, on peut, quand on lit un article, quand on veut dire, on a un poste, on donne à quel chercheur, on peut lire ces articles, et on peut surtout lire les évaluations des autres, qui s'engagent sur leur nom, avec ces publics, à ce qu'ils disent dans leur évaluation. Ça permet pas aussi de voir, penser qu'il y a du copinage, machin comme ça, parce que si il y a un article qui a trois bonnes reviews, mais que c'est trois gens du coup de labo, c'est pas forcément voilà, alors qu'actuellement, c'est pas censé arriver, vu que c'est anonyme, mais on sait pas, et en pratique, on sait pas. Et le tout, j'irai avec du logiciel libre, évidemment, parce qu'il faut pas se sortir d'une prison pour aller dans une autre, c'est pas une bonne idée. Et donc, tout l'argent qu'on économise en faisant ça, donc je rappelle, c'est 36 millions par an pour le CNRS, 1 million ou un peu moins par université, il y a plus de 100, il y a beaucoup d'établissements, des centaines d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche en France, je sais pas si vous imaginez au niveau mondial, c'est des sommes colossales, on peut les investir dans les presses universitaires, dans les bibliothèques et dans la recherche, parce que du coup on pourrait faire des postes de chercheurs en plus par exemple. Pour utiliser l'argent public pour réellement remplir sa mission, plutôt que de l'utiliser pour privatiser et payer des dividendes aux actionnaires des publishers, pour collectiviser le travail de gestion de conservation de la production scientifique, ça je l'ai déjà dit, et rapprocher à nouveau les gens qui font l'édition au sens, pas l'édition scientifique, la mise en page et tout ça, de la recherche, comme c'était le cas dans certaines petites maisons d'édition avant. Parce que c'est quand même comme ça que c'est censé marcher, et c'est comme ça que ça marche le mieux. Lisez l'article du titre dont vous avez parlé, les liens sont sur la page web et dans la présentation que je pourrais mettre en ligne. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire.